Allô tout le monde, je vous souhaite la bienvenue au balado Ma santé pour la vie. Je suis votre hôte, Eugénie Francoeur, coach santé. Mon travail, moi, c'est d'accompagner les gens vers leur santé optimale. On travaille tous les facteurs de vie modifiables, les habitudes de vie. Donc, l'alimentation, le sommeil, le repos, la gestion du stress, gestion des douleurs, trouver un sens à sa vie. Bref, tout ce sur quoi nous avons beaucoup de pouvoir, beaucoup plus de pouvoir que nous pensons. Pour ceux et celles dont c'est la première fois, ben, je vous souhaite la bienvenue au balado Ma santé pour la vie. Mon objectif dans ce balado, c'est vraiment d'accompagner, c'est de vous informer, vous donner de l'information, des trucs, des astuces pour vous aider à mieux prendre soin de votre santé. Il y a tellement d'informations contradictoires qui circulent, mais en fait, contradictoires, des fois complémentaires aussi, c'est difficile de s'y retrouver. Alors, moi, j'ai envie de vous offrir ça, un cadeau pour vous aider à prendre soin de vous. Puis si vous sentez que vous avez besoin d'un peu plus d'aide, ben gênez-vous pas pour me contacter. Ça me fera plaisir de vous accompagner. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du système nerveux. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de faire mon intro sur mon kayak par un beau dimanche du mois de juillet. Je suis dans la région de Sorel, dans les Marais. C'est absolument magnifique. Juste à côté de moi, il y a des canards. Il y a une maman canard avec ses 4 bébés. C'est plein de couleurs. Vraiment, il fait un temps magnifique. Alors, je suis ici parce que, ben oui, j'avais besoin de me calmer les nerfs aussi. C'est beau travailler, c'est beau faire ce qu'on aime. De temps en temps, on a besoin de décrocher. Alors aujourd'hui, on va parler du système nerveux. Dans le système nerveux, il y a deux parties principales. En fait, il y a la portion sympathique et il y a la portion parasympathique. L'exemple que j'utilise beaucoup, c'est comme dans une auto. Dans une auto, il y a l'accélérateur, le gaz et il y a le frein. Si on pèse juste sur l'accélérateur, on va rentrer dans le mur et on va faire des accidents. Si on pèse juste sur le frein, ben on n'ira pas nulle part. Alors, notre système nerveux, c'est un peu comme ça que ça fonctionne aussi. Donc, il y a le sympathique qui est le gaz, l'accélérateur, et le parasympathique, mais c'est la portion dans laquelle on se repose, on relaxe, on profite de la vie, on change de vitesse. L'idée, comme dans une auto, c'est que ça fonctionne bien, que tout ça, qu'on soit capable facilement de passer de l'un à l'autre. Pour en parler, j'ai une experte du système nerveux, c'est docteur Anne-Marie Bédard. Je l'ai entendue récemment, elle donnait une conférence sur le système nerveux et j'ai trouvé ça absolument fascinant. J'ai eu envie de l'inviter, puis elle a accepté. Elle travaille en périnatalité. Elle accompagne les femmes avant, pendant et après leur grossesse, donc après leur accouchement. Et elle s'est rendue compte, elle travaille en milieu hospitalier, elle s'est rendue compte qu'il y avait des besoins, que les gens avaient besoin justement de mieux connaître leur système nerveux et qu'on a plus de pouvoir qu'on pense sur notre système nerveux. Vous allez voir, elle nous raconte plein de choses importantes, elle nous donne des trucs et on va même commencer cette entrevue par une courte méditation. Dans cette entrevue, Dr. Bédard nous parle du système nerveux, bien sûr, et il nous présente aussi la théorie polyvagale. C'est assez récent, ça, comme découverte dans le monde de la santé. Donc, dans le nerf parasympathique, dans le système nerveux, la portion parasympathique, il y a aussi ce qu'on appelle le nerf vague. Et on s'est rendu compte qu'il y avait deux branches, la portion ventrale et la portion dorsale. Elle va nous expliquer comment tout ça fonctionne. Ce qui est le fun aussi avec Dr. Bédard, c'est qu'elle amène de plus en plus la pratique dans le monde régulier de la médecine. Et vous me direz qu'on en a bien besoin. Tout à fait d'accord. Alors, ben, je vous souhaite une bonne écoute, puis gênez-vous pas, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Envoyez-moi vos questions, vos commentaires, ce qui vous a plu, ce que vous aimeriez entendre aussi, si vous avez des idées, gênez-vous pas. Alors, je cède la parole à Dr. Bédard. Bonjour Anne-Marie, je te remercie d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour, merci de l'invitation, ça me fait vraiment plaisir d'être là.
En coaching santé, moi, c'est une des premières choses par lesquelles je commence toujours, ou à peu près toujours avec mes clientes, c'est de leur dire de se calmer les nerfs. Et aujourd'hui, toi, tu es là pour nous parler du système nerveux. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au système nerveux?
Ben, premièrement, me calmer les nerfs, justement. Je travaille dans un milieu où j'ai eu à gérer beaucoup de stress. Donc, je suis médecin de famille, principalement en obstétrique périnatalité, en salle d'accouchement, accompagner des femmes enceintes et faire le suivi des grossesses, le suivi des bébés après. Fait que c'est quand même un travail qui était très exigeant pour moi et qui demandait d'être constamment à l'écoute de, justement, de mon système nerveux, de ce qui se passait en moi. Puis c'est au fil des années que j'ai découvert qu'il y avait des choses qu'on pouvait faire, qu'on pouvait être maître de nos états intérieurs. La première chose qui m'a été offerte, c'est la méditation. Donc, ça fait à peu près 7 ans que j'ai découvert la méditation pleine conscience. Puis ça a été vraiment, ça a changé ma vie, la méditation. Ça m'a vraiment amené à retrouver un calme intérieur, même dans des situations où l'extérieur pouvait être extrêmement stressant. Puis ça, je l'ai vu dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle aussi. Même les infirmières de la salle d'accouchement me disaient « Mais qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Il me semble que t'es plus calme! » Effectivement, oui, j'étais plus calme avec la méditation. Ensuite, le reste de mon parcours, ben j'ai eu un diagnostic de ménopause précoce à 43 ans. J'en ai maintenant 47. Puis c'est une ménopause qui est arrivée assez drastiquement dans ma vie. Donc, et pour les femmes qui traversent la ménopause, elles vont comprendre que, en tout cas pour moi, ça a changé ma vie là. C'était vraiment plus la même énergie, plus la même qualité de sommeil, plus même la gestion du stress que j'étais capable de bien faire avec la méditation devenait plus difficile avec la ménopause. Donc la ménopause m'a amenée à aller encore plus loin dans mes recherches. Et c'est là que j'ai découvert, entre autres, la théorie polyvagale, qui, ça aussi, a été... Ça vient s'ajouter aux connaissances que j'avais déjà du système nerveux et de la méditation, de notre capacité à changer nos états ou à répondre à différentes situations de stress. Plutôt que de réagir. Et alors c'est ça qui m'a amenée à... C'est devenu une passion, c'est devenu... Ouais.
Je pense que plusieurs femmes en ménopause vont se reconnaître dans ce que tu dis. Avant d'explorer tout ça, j'aimerais ça, Anne-Marie, peut-être que tu nous proposes quelques minutes de méditation pleine conscience.
Certainement. Je vais vous inviter, peut-être que vous êtes en train de faire quelque chose en même temps que vous écoutez... ce balado. Mais si c'est possible pour vous, juste de cesser ce que vous êtes en train de faire. Si vous êtes en voiture, continuez de conduire. Bien sûr, gardez les yeux ouverts et regardez droit devant vous. Mais pour commencer, je vais vous inviter à observer dans quel endroit vous êtes. Juste balayer du regard l'endroit où vous vous trouvez en ce moment pour bien vous orienter dans la pièce. S'orienter, ça nous permet d'arriver, d'être ici maintenant, de prendre conscience de notre environnement. De prendre conscience qu'on est en sécurité en ce moment. Je vous le souhaite en tout cas. Et si vous n'êtes pas en sécurité, assurez-vous de trouver un endroit où vous allez pouvoir vous sentir en sécurité. Laissez votre regard peut-être juste se poser sur quelque chose qui attire votre attention, une couleur, un objet, peu importe. Puis amenez votre attention à la respiration. Une respiration calme, sans forcer, naturelle. Prenez conscience de l'endroit où vous êtes assis ou si vous êtes debout, du contact de vos pieds sur le sol. Prenez contact du support que vous offre le sol ou du support que vous offre la chaise ou le banc sur lequel vous êtes assis. Offrez-vous quelques instants pour être ici, maintenant, en pleine présence. Puis si vous voulez, on peut prendre quelques grandes respirations tous ensemble. Vous pouvez même visualiser votre respiration au centre de votre poitrine, comme si c'était votre cœur qui respirait. Peut-être mettre un sourire sur votre visage. Ça détend les muscles du visage. Ça permet la libération de plein d'hormones positives. Et notre système nerveux adore ça. Et c'est dans cet espace-là de présence à soi, aux autres, que j'ai envie de partager avec vous ma passion du système nerveux.
Merci Anne-Marie, ça nous met effectivement dans un bel espace pour explorer le système nerveux. Je vais te demander tout simplement, c'est quoi un système nerveux puis comment ça fonctionne?
Oui. D'abord, on a tous un système nerveux, hein? Et on partage même le même système nerveux que les mammifères. Et de base, notre système nerveux fonctionne à peu près de la même manière pour tout le monde. Ce qui est nouveau avec la théorie polyvagale, parce que c'est vraiment de ça que je vais parler aujourd'hui, vous avez peut-être déjà entendu parler du système nerveux comme étant le système sympathique et le système parasympathique. C'est ce qu'on nous enseigne, c'est ce qu'on m'a enseigné quand j'ai fait mes études en médecine et avant que je découvre la théorie polyvagale, c'était encore ma croyance que ça fonctionnait comme deux voies d'accès, une en sympathique et une en parasympathique. Et la théorie polyvagale, ça a été développé par Stephen Porges, qui est un docteur en psychologie. Et il a découvert que dans le système, en fait, le parasympathique, c'est le nerf vague principalement. Le nerf vague, c'est le 10e nerf de notre qui dont le départ est au niveau de la boîte crânienne, au niveau du brainstem qu'on dit là. En anglais, c'est le brainstem.
Brainstem,
mais, okay. Ouais, c'est le oh, j'ai pas le mot également. Ça va me revenir. Mais le nerf vague, Dr. Podgers a découvert qu'il y avait deux voies d'accès au nerf vague. On pensait que c'était un seul nerf qui parcourait tout le corps. Et il a découvert qu'il y avait une partie ventrale. Ventrale parce qu'elle passe en avant du brainstem. Et une partie dorsale qui va passer vers l'arrière du brainstem. Et les deux ont une fonction vraiment très, très, très différente. Et c'est super important de bien les comprendre, ces deux parties-là, parce que c'est une des recettes pour avoir un système nerveux qui est en équilibre, qui est bien régulé, c'est de comprendre ce fonctionnement-là.
Est-ce que, avant de rentrer dans les détails du nerf vague, est-ce que ce serait pertinent d'expliquer le sympathique, parasympathique, ou est-ce que ça va t'expliquer au fur et à mesure que tu vas nous parler du nerf vague?
Oui, je vais vous l'expliquer en même temps. En fait, le système sympathique, c'est le système d'activation. Et si on prend le système nerveux vraiment sur une base sa base fondamentale, le système nerveux est là pour assurer notre survie. Donc, c'est sa principale fonction. Le système nerveux va s'occuper de faire en sorte que notre système fonctionne bien et que dans une période de danger, par exemple, on va pouvoir réagir de façon adéquate pour éviter le danger. Donc, c'est vraiment un système qui est là pour assurer notre survie. Le sympathique est là pour l'activation. Donc, on va être soit en combat ou soit en fuite. Donc, c'est vraiment sa principale fonction, le système sympathique. On peut penser, par exemple, à une gazelle qui va se faire pourchasser par un lion. Ben, elle va activer son système sympathique parce qu'elle va principalement choisir la fuite, la gazelle. Elle choisira pas le combat.
En survie.
En survie.
Ouais.
C'est vraiment, donc c'est pour sa survie, elle active son système nerveux sympathique et elle va fuir du plus vite qu'elle peut pour essayer d'échapper au lion. Donc, c'est vraiment la fonction de base de notre système nerveux sympathique. Aujourd'hui, ben, c'est rare qu'on ait face à un lion. On réagirait de la même façon face à un lion. Soit qu'on déciderait de fuir, là. Mm-hmm. c'est rare qu'on ait face à des situations aussi dramatiques, dangereuses et où notre survie est aussi en jeu. Et aujourd'hui, notre système peut s'activer de la même façon que si on était pourchassé par un lion, mais pour des petites choses qui sont vraiment bénignes, dans lesquelles on n'est pas vraiment en danger. Donc, c'est un des problèmes qui arrive avec notre système nerveux, c'est qu'il reconnaît pas nécessairement les réels dangers.
On est comme surstimulé tout le temps.
Tout à fait. On est comme entouré de millions de petits stresseurs qui vont faire réagir notre système nerveux comme si c'était un instinct vraiment de survie.
Ces millions de petits stresseurs-là, tu peux-tu nous en donner quelques exemples?
Oh mon Dieu, mais il y en a des tonnes. Tout peut être un stresseur, puis ça va dépendre, je dirais, de même chaque personne va avoir ses propres stresseurs qui vont déclencher son système nerveux. Pour moi, ça pourrait ne pas me déclencher au niveau de mon système nerveux, mais pour une autre personne, ça pourrait déclencher. Mais le travail, les nouvelles, écouter les nouvelles, il y en a plein. On est entouré de ça.
Ça, c'est le sympathique. Le parasympathique.
Le parasympathique, en pleine conscience, le parasympathique, on le décrit comme étant le parachute, le système. Et c'est ce qui est encore souvent véhiculé comme notion ou la pédale de frein. C'est comme si le sympathique, ce serait l'accélérateur, le parasympathique, ce serait le frein. Puis on le décrit comme le système de parachute. Beaucoup dans les cours de méditation que j'ai faites, c'est comme ça qu'il était décrit, comme si il est là pour nous sécuriser ou pour amener une espèce de ralentissement au niveau de notre système. Ce qui est important de comprendre, c'est que le parasympathique est principalement va fonctionner principalement à l'aide du nerf vague. Et c'est là que la distinction entre la partie ventrale du nerf vague et la partie dorsale du nerf vague va prendre toute son importance. La partie dorsale du nerf vague, c'est la partie qui est la plus ancienne au niveau hiérarchique. Elle date de près de 5 millions d'années. Donc, au niveau de l'évolution de l'espèce des mammifères et des humains, c'est la partie la plus ancienne. Ça, c'est vraiment le break. C'est vraiment le frein. Mm-hmm. Et ça fait partie du système de survie. Donc, je disais le sympathique, ça va être la fuite ou le combat. La portion dorsale du nerf vague, ça va être le figement. C'est quand notre corps fait stop.
Stop.
Stop, c'est terminé. Mon système ne peut plus en prendre plus. Ou dans une idée de survie, je dois m'arrêter, me figer. Ça va nous arriver, par exemple, dans des cas extrêmes, si on a une peur vraiment intense ou on vit quelque chose qui est très, très traumatisant, ça peut être quelque chose qui s'active, qui va s'activer là, dans un trauma, par exemple.
Okay.
Ça peut arriver comme ça. Et ça peut arriver aussi pour nous protéger sur du long cours. Parce que, comme je disais tout à l'heure, comme on est entouré de stresseurs, si on ne régule pas notre système nerveux puis qu'on est constamment dans notre système nerveux sympathique, à un moment donné, notre système nerveux sympathique s'épuise. Puis il dit là, je peux plus fournir à la demande. Alors, c'est le parasympathique qui va embarquer dans la portion dorsale du nerf vague, qui va embarquer puis qui va figer. Un des exemples que je pourrais donner, c'est par exemple la dépression. La dépression, c'est souvent les gens se sentent comme ça, il y a plus d'énergie,
il y a plus de jus,
il y a un shutdown, il y a plus d'intérêt, les gens sont affaissés, donc c'est vraiment un mécanisme de survie.
Mécanisme de survie, puis tu parlais aussi dans le parasympathique, l'image que tu donnes, que j'aime beaucoup aussi, c'est comme le frein, mais des fois, moi, j'ai l'impression dans ma vie à moi, même si ça fait longtemps que je pratique la méditation puis j'ai plein d'outils, j'ai l'impression des fois que mes freins sont défectueux.
En fait, il y a le frein automatique, que je dirais, qui est vraiment quand le système nerveux prend le relais puis que c'est pas conscient, ça. C'est des réactions automatiques. Puis ça, c'est important de le comprendre parce que quand c'est le frein automatique qui prend la relève, ben effectivement, on peut avoir l'impression qu'il est défectueux parce que, oups, là, on n'a plus accès nécessairement à nos ressources parce qu'on vient de faire un shutdown, par exemple.
Mm-hmm.
Par exemple, la dépression, je vais prendre ça, ou l'état dépressif. Est-ce que c'est vraiment défectueux? Je pense pas. Je pense que c'est au contraire. Puis c'est ce que Stephen Porges dit dans sa formation. Moi, quand il a dit ça, j'ai fait « Wow! » Non, mon système est là pour me protéger. Il fonctionne bien. Il fonctionne bien. Il est en train de m'avertir qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est une autre façon de voir les choses. On est dans une ère où est-ce que tout va vite. on est dans la performance, on est souvent, on a beaucoup d'exigences qui viennent de l'extérieur et même on se crée beaucoup d'exigences intérieures aussi envers nous-mêmes. Et ça peut être épuisant pour un système nerveux. Et des fois, c'est juste des messages que notre corps est en train de nous envoyer, comme de quoi il faut ralentir.
Mais justement, on y arrive au ralentissement. Puis des fois, on essaye de ralentir, mais ça continue à tourner à 200 000 à l'heure. Le hamster continue. Mm-hmm. On essaye de se calmer, on respire, mais on se sent encore un peu sur le high.
Il y a une chose importante avec le système nerveux, c'est que ça se passe pas dans la tête. Donc, tout ce qui se passe dans la tête nous éloigne de ce qui se passe dans notre corps. Puis je pense qu'on a un grand intérêt à retourner dans le corps. Savoir qu'est-ce que le corps nous dit, qu'est-ce que le corps parle. Puis ça, c'est quelque chose qu'on entend depuis longtemps, hein? Le corps parle.
Oui, oh oui, oui, oui.
Mais est-ce qu'on sait l'écouter? Est-ce qu'on sait l'écouter? C'est ça qu'il faut apprendre à faire. Puis dans la théorie polyvagale, c'est ce qui nous est enseigné. Apprendre à écouter notre corps, à écouter nos états, reconnaître dans quel état on est. Donc, est-ce que je suis dans un état sympathique, de fuite ou de combat? Est-ce que je suis dans un état de nerf vague dorsal ou est-ce que mon système il a fait pouf, shutdown? Puis des fois, c'est correct, hein? Tu sais, on peut avoir un shutdown puis s'installer sur le divan puis avoir envie juste de regarder par la fenêtre ou ça dure quelques instants. Puis c'est correct. Dans la partie dorsale du nerf vague, elle est là aussi pour nous permettre de favoriser la digestion. C'est elle, entre autres, qui est activée quand on dort la nuit. Donc, elle est pas juste activée en mode de survie. Elle est nécessaire aussi pour le bon fonctionnement de notre corps puis pour retrouver l'homéostasie du corps. Donc, on appelle ça le repos et digestion. Donc, c'est le système qui s'occupe de nos organes. D'ailleurs, la partie dorsale du nerf vague va innerver tous les organes qui sont en bas du diaphragme. Le diaphragme, c'est le muscle qui s'occupe de la respiration. Donc, tout ce qui est en bas du diaphragme est innervé par la partie dorsale du nerf vague.
C'est-tu pour ça que lorsque je suis bien stressée, on est bien stressé, on digère moins bien?
Tout à fait. Ben oui.
Okay.
Quand on est stressé, on active notre sympathique. Notre parasympathique est pas là pour la partie dorsale du nerf vague est pas là pour est pas de la partie pour faire ses fonctions vitales qui sont celles de digérer, de se reposer et parfois qui sont celles de figer pour la survie.
OK. Donc si je récapitule, il y a le parasympathique, il y a le sympathique, il y a le parasympathique puis dans le parasympathique, tu as le nerf vague, la partie dorsale.
Ouais.
Et la deuxième partie?
C'est la ventrale.
Et celle-là, elle fait quoi?
Ah, celle-là, c'est comme, juste de le dire, j'ai des frissons.
Un grand sourire dans ton visage.
Ah, c'est une pièce du puzzle qui était essentielle à découvrir. Puis merci à Stephen Porges qui a découvert ça, parce que ça fait toute la différence. La portion ventrale du nerf vague, elle s'occupe d'innerver au-dessus du diaphragme. Donc, tout ce qui est au-dessus du diaphragme. Le cœur, le visage, il y a plusieurs nerfs crâniens dans la boîte crânienne. Les nerfs crâniens, il y en a 12 en tout, mais il y en a plusieurs qui vont être directement liés à la portion ventrale du nerf vague, qui est le 10e nerf crânien, celui-là. Donc, c'est toute l'expression faciale. Tantôt, je vous ai fait sourire. Quand on sourit, on va stimuler la portion ventrale de notre nerf vague. Et cette portion-là, c'est vraiment la portion qui va s'occuper de réguler notre système nerveux. Donc, si on n'a pas cette portion-là ou qu'on prend pas soin de l'activer, qu'on est simplement dans le parasympathique ou dans la portion dorsale du nerf vague, c'est comme si notre système ne s'auto-régule pas. Et c'est là qu'il peut s'épuiser éventuellement. Donc, la portion ventrale, elle est essentielle pour l'auto-régulation du système nerveux. C'est comme le balancier. Ça permet de rééquilibrer les choses. Je vais vous donner un exemple avec les animaux. Je parlais tantôt de la gazelle qui se fait pourchasser par le lion. Elle va commencer par la fuite. Si la gazelle réussit pas à s'évader par la fuite et que le lion va, il y a des vidéos de ça d'ailleurs, hein, que le lion va l'attraper, la gazelle, elle va entrer dans la portion dorsale de son nerf vague, elle va faire un shutdown, un figement, elle va figer carrément, tellement que le lion pense qu'elle est morte. Et le lion a pas d'intérêt envers un animal qui c'est pas des charognards, les lions. Donc il va laisser aller la gazelle.
Fait que d'où l'expression faire le mort.
Oui, exactement.
OK.
Exactement. Ils font, c'est carrément ça. Ils font le mort. Et c'est instinctif. C'est pour leur instinct de survie. Et une fois que c'est terminé, si le lion s'en va, la gazelle est, finalement s'en est sortie, on va la voir quelques minutes plus tard, pas 2 semaines, un mois, là. Quelques instants plus tard, dès que le danger est disparu, elle va retourner avec son groupe, puis elle va aller brouter dans l'herbe. Donc, elle s'auto-régule. Elle retourne à un état ventral qui est par rapport au nerf vague, qui est l'état de beaucoup de connexion, d'engagement social. Donc, cette partie-là du nerf vague est responsable de notre engagement social,
Nos
nos
relations.
relations. Ouais, 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 ouais.
Est-ce que l'être humain a la même capacité que la gazelle d'utiliser les différentes portions du nerf vague?
Oui, le problème le défi, disons, le défi que l'être humain a, c'est qu'on va aller dans notre tête. On va réfléchir beaucoup. Et on va rester avec les histoires des différents stresseurs qu'on a vécus. On va rester avec ces histoires-là en tête et on va les entretenir. Et ça, je dirais que c'est une grosse différence avec les animaux. C'est notre capacité phénoménale à entretenir des états de stress, des états de danger, des états d'insécurité. Et ça, c'est pas bon pour notre corps. C'est là que notre corps se fatigue parce qu'il n'y a pas la capacité à ce moment-là optimale de garder l'homéostasie, de garder l'équilibre.
On y arrive à la portion du corps, là. Il est où physiquement dans notre corps le système nerveux?
Mais partout, 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 partout.
Le nerf vague, lui?
Le nerf vague, il commence vraiment à la base du crâne. Donc, c'est le brainstem, que j'ai encore pas le terme en français, je m'excuse, ça va me revenir après. Mais il part là. Et ce qui est le fun, ce qui est ben, drôle pour le nerf vague, c'est qu'ils l'ont appelé vague parce que dans les premières dissections qu'ils ont faites, moi, pour découvrir l'anatomie du nerf vague, il partait tellement partout et dans qu'ils l'ont appelé vague. Vague parce que c'est vague, en
C'est
fait.
vrai.
Mais
OK. Donc, il porte bien son nom.
oui, il porte bien son nom. Puis oui, le système nerveux s'occupe de réguler tous nos organes, donc tout.
C'est quoi les conséquences physiques d'avoir un déséquilibre du système nerveux au niveau des autres systèmes endocriniens, digestifs et autres?
Le corps est une machine complexe.
T'es bien placé pour le savoir comme médecin.
Je dirais que je vais parler là vraiment sur une base personnelle parce que je pense que un système nerveux déséquilibré peut déséquilibrer à peu près tous les autres systèmes du corps. Donc si on est en sympathique activé de façon chronique, là, on parle de stress chronique, ben ça va épuiser tout le reste, parce qu'on n'est pas on est dans une fonction de survie. Donc, notre corps pense qu'il doit libérer différentes hormones, qu'il doit fonctionner comme s'il était en danger. Donc, c'est essentiel d'offrir à notre système nerveux et donc d'offrir à notre corps, parce que des moments de calme et de sécurité. Se sentir en sécurité intérieure, c'est essentiel pour que notre système nerveux se régule. C'est sa façon de revenir à un équilibre.
Là, dans le pratico-pratique, dans le concret, là, on fait quoi pour... on parle souvent d'activer le nerf vague. Quand on parle d'activer le nerf vague, on parle du dorsal ou du ventral?
On parle du ventral.
OK.
Ouais.
Le dorsal, est-ce qu'il a besoin aussi d'être stimulé ou il est sur le pilote
dorsal,
automatique?
Il est pas mal plus sur le pilote automatique. Il est capable de faire son travail, puis de faire son travail quand même, en général, assez bien. Je dirais que... Ben la première étape là, ce serait vraiment de reconnaître les états dans lesquels on est. Fait que c'est vraiment la première chose, de reconnaître je suis dans quel état en ce moment. Est-ce que je suis dans un état de sympathique? Puis c'est assez facile de voir non, j'ai envie de m'en aller là. Donc si j'ai envie de m'en aller, je suis dans la fuite. Ou je suis en colère, bon, je suis dans le combat, tu sais, je suis dans mon sympathique, je suis activée. On va le sentir, le cœur va s'accélérer, on va avoir des chaleurs, on va souvent, tu sais, c'est des choses qu'on peut ressentir. Ça m'amène la neuroception est un concept très important en théorie polyvagale, et c'est ça, c'est ressentir nos états. Donc je dirais que c'est la première étape, puis ressentir si on est dans le dorsal. On a tous des moments dans notre vie où un ou l'autre vont être prédominants, plus le sympathique, plus le dorsal, puis ben idéalement plus le ventral. Je dirais que les dernières années, on a été notre système a trouvé ça difficile parce que on a été coupé d'à peu près toutes nos relations sociales.
Donc notre ventral a payé le prix.
Mm-hmm. Ouais, et ça je trouve ça dommage en fait qu'on n'ait pas eu l'occasion d'en parler plus. Je pense qu'on aurait eu intérêt à parler un peu plus de ça, mais c'est encore pas très connu non plus malheureusement, mais c'est essentiel. Donc ça nous a pas aidé, disons. Quand on parle de stimuler le nerf vague, c'est principalement la portion ventrale du nerf vague qu'on doit stimuler. Et comment on le fait? Ben, on le fait, il faut se trouver une recette avec plusieurs ingrédients, trouver nos ressources, je dirais, qui vont être celles qui vont nous faire du bien. Comment on sait que c'est une bonne ressource? Ben, c'est quand on se sent en sécurité. Si on fait quelque chose puis je me sens bien. Je me sens bien, je me sens calme, j'ai du plaisir à être là. Fait que donc on peut le faire par des activités qu'on fait soi-même. Par exemple, moi j'aime beaucoup la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, ça me permet moi de revenir à un état de sécurité intérieure presque instantanément.
Peux-tu nous expliquer pour celles et ceux qui savent pas c'est quoi la cohérence cardiaque, mm-hmm. S'il te plaît?
Oui. La cohérence cardiaque, c'est une, je dirais une forme de pleine conscience de la respiration, où on va contrôler notre respiration. Donc, on va avoir une respiration lente et profonde. Ça peut être à peu près 5 secondes d'inspiration, 5 secondes de d'expiration. Donc, on inspire profondément, on expire profondément, environ 5 secondes. Et on va porter l'attention au niveau de notre cœur. On peut le faire en mettant notre main sur notre poitrine, ça peut nous aider au début. Comme si la respiration venait de notre cœur. Un peu comme j'ai fait au début tout à l'heure.
OK, donc on part pas de notre ventre.
Ben, c'est vraiment... On peut faire une respiration aussi, là, qu'on dit, là, abdominale. Mm-hmm. Bon, ça aussi, mais essentiellement, la cohérence cardiaque, c'est vraiment inspiration profonde, expiration profonde, à peu près 5 secondes.
Par la bouche ou par le nez?
Pas d'importance. c'est vraiment de porter l'attention sur le cœur, au niveau de la région du cœur, puis d'amener une émotion positive. Donc, si en plus on amène une émotion positive, soit la joie, l'amour, la gratitude, puis qu'on se met un sourire au visage, ben c'est tout ça et va être vraiment régénérant pour le système nerveux et surtout le nerf vague. Parce qu'on s'amène en sécurité. On s'amène avec cette respiration-là, on dit à notre corps qu'on est en sécurité.
Ça revient souvent, le mot sécurité, dans mm-hmm. ce que tu nous partages. Mm-hmm. Donc, la créer à l'intérieur de nous, puis oui. Trouver différentes façons. Oui. Donc, la première étape, c'est de ressentir notre état, donc de prendre le temps de regarder dans quel état on se trouve. Mm-hmm. Après ça, toi, un de tes outils, c'est la cohérence cardiaque.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Et après, si on regarde le coffre à outils au complet, mm-hmm, là, après mm-hmm, la cohérence mm-hmm. cardiaque, il y a quoi?
Il y a l'exercice physique.
Intense, modéré, yoga ou course ou comment?
Exercice physique consciente. En fait, tout doit se faire en pleine conscience, parce qu'on peut faire l'exercice physique parce que on a besoin d'activer notre système nerveux sympathique et là on va être dans le défi, on va être dans le combat, dans la. Si on est très intense dans notre exercice physique, c'est possible que on soit pas dans un état de ventral, mais de nerf vague ventrale, mais plutôt dans un état de sympathique. C'est sûr que quand on fait de l'exercice physique, il y a toujours du sympathique. Mais ce qu'on veut amener, c'est la portion ventrale du nerf vague combinée avec cet exercice-là.
Les deux qui fonctionnent ensemble.
Exactement. En faisant ça, on est en train d'apprendre à notre système nerveux sympathique qu'il peut s'activer de façon sécuritaire. Il n'est plus en mode danger. Il est sécuritaire. Et ça va aider à... Je parlais tout à l'heure de l'autorégulation. Ça va être parce que chaque système est entremêlé. C'est pas un système. Les trois systèmes viennent s'entremêler, viennent s'entrecouper.
C'est important ce que tu es en train de dire là parce que j'avais la fausse impression à t'écouter que quand on faisait de l'exercice plus intense, on était automatiquement dans le sympathique et qu'on négligeait le nerf vague.
Ça peut être vrai, mais c'est ça. Il faut en être conscient. Faut être conscient parce qu'il peut arriver peu importe l'activité qu'on fait, qu'on le fait sans mettre de la partie notre portion ventrale du nerf vague.
Okay.
Donc amener de la pleine conscience, ce que je disais, c'est observer ces états. Donc faut les reconnaître d'abord. Si on n'est pas capable de reconnaître les états dans lesquels on est, mais ça va être difficile de les transformer ou d'amener du nerf vague ventral dans l'état. Et il faut vraiment être capable de les observer. Puis ça se fait au long cours, puis ça se fait par des petites étapes à la fois, des petites choses. Ah tiens, c'est intéressant, j'observe qu'aujourd'hui j'ai été plus dans mon sympathique ou dans ma portion dorsale du nerf vague. Tu sais, c'est l'observation.
Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour stimuler la portion ventrale? On observe, on respire, c'est quoi les autres trucs?
C'est sûr que l'engagement, la portion ventrale du nerf vague, c'est le système d'engagement social. Donc, à chaque fois qu'on est en relation avec une autre personne, il y a une possibilité de co-réguler. Donc, la co-régulation, c'est entre deux personnes, c'est d'être dans un même état. Et ça, c'est extrêmement régénérant pour le système nerveux. Donc, c'est pas difficile à comprendre. On va souper avec des amis, on a une belle soirée. Souvent, on va pas être dans notre tête à ce moment-là. On va être dans le moment présent, on va profiter ou on va prendre une marche à l'extérieur avec une amie ou avec un partenaire ou des enfants ou on va jouer avec les enfants, même avec les animaux de compagnie. On peut co-réguler avec nos animaux de compagnie. C'est le système d'engagement social.
Fait que tu es en train de nous dire que l'être humain n'est pas fait pour être seul.
L'être humain n'est pas fait pour être seul. Non. Puis je dirais que pour moi, c'est une grosse partie des effets de la pandémie. On a tellement été coupés de nos relations sociales, de nos contacts sociaux, c'est devenu un danger. Sortir dans la rue, c'est devenu un danger. Aller faire l'épicerie, c'est devenu un danger. On a shifté notre système nerveux. Plutôt que d'être dans le système d'engagement social, on est allé dans notre système sympathique, de combat, de fuite, puis même des fois de figement. Fait que c'est un effet. Pourquoi il y a autant de stress aujourd'hui? Il y a beaucoup plus de stress, de dépression, de post-pandémie. Je pense que c'est les effets en partie de ça. Donc, il faut réapprendre à se faire confiance dans nos engagements sociaux. Ça va beaucoup mieux, je pense, en ce moment. On a moins peur des contacts sociaux qu'au début. Puis il faut l'entretenir. Donc, tu sais, si vous, exemple, à l'épicerie, sourire. Juste sourire à quelqu'un qu'on croise à l'épicerie. Juste sourire à la caissière. On vient de créer un engagement social. On a co-régulé. Et ça, c'est très, très bénéfique.
J'ai souvent entendu parler aussi, vu, lu plein de choses sur d'autres façons d'activer le nerf vague, là, se gargariser, chanter, tout ça. Est-ce que tu peux nous en parler de quelques-uns de ces trucs?
En fait, comme je disais tout à l'heure, la portion ventrale, innerve tout ce qui est au-dessus du diaphragme. Donc, tout ce qui fait partie du visage va être une façon d'activer sainement la portion ventrale du nerf vague. Fait qu'effectivement, chanter, gargariser, écouter de la musique. Stephen Porges, il a mis sur pied un programme qui s'appelle le Safe and Sound Protocol. C'est un protocole de musique qui a été... c'est de la musique qui a été filtrée pour reproduire les mêmes fréquences que si on chante, par exemple, une berceuse à un enfant. Chanter une berceuse à un bébé, on fait ça pour le sécuriser.
Ben oui.
Alors, ça, puis c'est directement, en écoutant la musique, on a une activation directe de la portion ventrale du nerf vague. Fait que c'est des petits des sourires. Alors, je reviens encore là-dessus, mais oui, sourire, rire, c'est ça. Okay. Petite chose simple.
Sans nier ce qu'on est en train de vivre. C'est toujours la première étape de reconnaître ce qui est là.
Exactement.
OK. Est-ce qu'à la base, les êtres humains, on a une prédominance dorsale ou ventrale, ou est-ce qu'on est tous programmés pareil?
À la base, on est tous programmés pareil, dans le sens que le dorsal est le plus ancien. C'est vraiment le système de survie, comme je disais tout à l'heure, qui est le plus ancien. Ensuite de ça, ça a été le sympathique qui s'est développé. Le combat, la fuite, et ensuite de ça, c'est le système d'engagement social. Donc ça, c'est pareil pour tout le monde. Ce qui est pas pareil pour tout le monde, c'est ce qui va nous faire réagir ou ce qui va activer les différentes parties de notre système nerveux. Ça, c'est différent pour chaque personne. Donc le système nerveux de chaque individu va réagir différemment selon les différents stresseurs ou les différents événements que la personne va vivre. Donc, ça, c'est important parce que c'est là où, individuellement, on a tous le pouvoir de reconnaître, premièrement, quels sont nos états intérieurs, de reconnaître ce qui les active, ce qui les déclenche, et ensuite de trouver des ressources, de trouver la recette, les ingrédients qui vont aider à rééquilibrer tout ça.
Après un burn-out ou une dépression ou un épuisement, ça prend combien de temps à rebâtir, recalibrer, rééquilibrer un système nerveux? Mmh. Et est-ce qu'on peut rebâtir notre système nerveux comme il est conçu dans sa pleine fonctionnalité?
Oui. En général, oui, on peut rebâtir un système nerveux. Donc, il y a quelques cas où ça a été démontré que c'était pas possible, mais c'est des cas vraiment extrêmes.
Par exemple?
Par exemple, un enfant qui aurait été complètement privé de contacts sociaux son jeune âge, là, dès le début de la vie, là, qui aurait pas eu de lien, justement, de sécurité de créer, donc il connaît pas la sécurité, son système peut rester figé dans une espèce de mode survie parce qu'il a pas développé le système ventral. Le système ventral, ça se développe. Donc, les deux autres, c'est inné, c'est automatique, alors que la portion ventrale du nerf vague, on doit la développer. Et on la développe dès notre jeune âge avec le contact avec nos parents, c'est là que ça se développe. C'est possible de renverser, de retrouver l'équilibre d'un système nerveux. C'est sûr que ça peut prendre du temps. Puis je dirais qu'il faut pas se mettre de temps, parce que à partir du moment si on veut trop, on est dans notre mode survie, encore une fois.
Puis on se met de la pression.
On se met du stress. Donc alors il faut des fois laisser le temps faire les choses.
Une grande partie de mes clientes en coaching, c'est des femmes en ménopause, pas en préménopause. J'ai ces discussions-là régulièrement, puis on se pose des questions à savoir, bon, la ménopause amène une foule de changements, ça varie d'une femme à l'autre, et on est plusieurs à se demander, est-ce qu'on est capable de retrouver la même résilience par rapport au stress, la même capacité de travail et tout ça, une fois qu'on atteint qu'on est dans cette transition-là?
Encore une fois, c'est sûr que là, ma réponse va être teintée peut-être de mon expérience personnelle. Mais personnellement, je pense pas que je suis capable de retrouver un système nerveux aussi résilient que je l'ai eu pendant plusieurs années. Maintenant, est-ce que ça fait en sorte que mon système nerveux va être dérégulé ou ne sera pas capable de s'auto-réguler? Non, je pense que c'est juste différent, disons. C'est normal qu'avec l'âge, on a besoin d'avoir plus de ressources, que on a besoin de se rappeler plus souvent, plus régulièrement que c'est important de prendre soin de soi et de son système nerveux. Je pense que ça va avec l'âge aussi, là. Je pense qu'on est, quand on passe par la ménopause, c'est sûr qu'il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui changent. Notre corps, il nous demande de ralentir. Notre corps ralentit. Donc, il faut, à quelque part, il y a une partie d'acceptation, puis il y a une partie de reconstruction, de reconstruire différemment. Est-ce que on peut être aussi performant, efficace, heureux? Je pense que oui, mais différemment.
J'aime beaucoup ta réponse. Là, on va faire un peu de visualisation positive. T'es bien placée pour parler de ça. Ce dont tu nous parles là, dans le système de santé actuel qu'on connaît, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de détresse, il y a beaucoup de souffrance. Il y a Jon Kabat-Zinn qui fait un travail remarquable pour amener la pleine conscience dans les hôpitaux. Mmh, ici au Québec, il y a Robert Béliveau, Dr. Robert Béliveau, entre autres, qui a fait ça. Ça serait pas pertinent d'amener ça dans notre système public?
Mais oui, tellement pertinent.
Qu'est-ce que ça changerait?
Ben, ça changerait la vision qu'on a de la santé. Qu'est-ce que la santé vraiment? Qu'est-ce que c'est être en santé et ça? Qu'est-ce que? Comment on peut chaque personne individuellement? Comment on peut en arriver à avoir une santé optimale? Je pense que dans le système actuel, on met pas assez accent sur l'importance de la personne comme telle, comme étant le maître de sa propre santé.
Se responsabiliser.
Oui, se responsabiliser et être le meilleur, j'allais dire le meilleur médecin pour soi-même, mais de s'offrir sa médecine, de quoi on a individuellement besoin, chaque personne. Ça, c'est différent pour tout le monde. Puis il y a des gens qui peuvent vous guider pour trouver quels sont vos outils qui vont être nécessaires pour vous permettre d'être en meilleure santé. Mais à la base, ça reste que c'est individuellement qu'on peut les trouver.
Oui, parce que même si le médecin vous dit de méditer, il pourra pas méditer à votre place.
Non, effectivement.
OK. Effectivement. Toi, t'en es où dans la pleine conscience et le système médical? Est-ce que c'est quelque chose que tu essaies d'amener dans cet univers-là?
Oui, tout à fait. J'ai eu l'opportunité d'enseigner le programme MBSR. Vous avez parlé de Jon Kabat-Zinn tout à l'heure. Donc, le MBSR, c'est le Mindfulness Based Stress Reduction, le programme de réduction du stress par la pleine conscience, qui est un programme de 9 semaines où on apprend ensemble comment introduire la pleine conscience dans notre vie. Donc, c'est vraiment un programme expérientiel où moi, je suis là pour guider les gens à travers ce programme-là. Et ça, j'ai pu l'introduire dans ma pratique médicale. Avec grand bonheur, d'ailleurs, les patients étaient vraiment contents de pouvoir avoir accès à ce genre de choses-là. Et c'est une approche qui est différente de ce qu'on connaît du système de santé conventionnel. Et je pense qu'on a intérêt à intégrer des opportunités comme ça de voir les choses différemment et de redonner aux patients le pouvoir de se connaître. Parce que le MBSR, c'est beaucoup ça. On va beaucoup à l'exploration de nos états. Prochainement, ce que j'aimerais, c'est vraiment intégrer la théorie polyvagale dans un programme comme le MBSR. Donc, un MBSR teinté de théorie polyvagale parce que c'est essentiel que les gens comprennent ça. Alors, ça, c'est ce qui s'en vient pour moi.
Est-ce qu'il y a beaucoup d'ouverture dans le monde médical traditionnel?
Je vous dirais que les premières fois quand j'ai voulu introduire ça, il a fallu quand même que je tienne mon bout, si on veut. Malheureusement, je pense pas qu'en ce moment il y a beaucoup d'ouverture parce qu'en fait il y a de l'ouverture mais à l'extérieur de notre système de santé actuel. Le système de santé actuel est tellement surchargé, tellement dans des besoins immédiats et que c'est difficile d'envisager d'autres avenues. Je pense qu'il y aurait intérêt, on aurait grand intérêt. Et c'est pas l'intérêt qui manque auprès des médecins. Je pense qu'il y a beaucoup de médecins, beaucoup de professionnels de la santé qui s'intéressent de plus en plus à des méthodes, disons, différentes, qui sont aussi prouvées scientifiquement efficaces et qui sont reconnues. Je pense que c'est important de le mentionner. Il y a du chemin encore à faire.
OK. Je vais te ramener brièvement sur l'idée tantôt de devenir son propre laboratoire. Mm-hmm. Ce qui marche pour moi ne va pas nécessairement mm-hmm. marcher pour toi et inversement. Mm-hmm. Donc, c'est de se bâtir une trousse.
Ouais, okay. Vraiment. Ouais, une trousse de ressources ou une recette avec différents ingrédients qu'on va pouvoir ajouter. Et ça peut être, il faut juste en être conscient. Aller marcher en forêt, prendre le temps d'observer, faire de la contemplation, observer les oiseaux, les couleurs dehors, observer la nature. Donc, c'est des petites choses simples qui, une fois qu'on va avoir réalisé comment ça peut nous mettre dans un état de bien-être, on va être ça fait du sens ensuite de ça, c'est vrai, ça fait du sens, puis ça nous donne envie de recommencer.
Dans le pratico-pratique, dans le concret, tout le monde ou à peu près est assez pas mal occupé. Mm-hmm. Combien de temps par jour à peu près on devrait consacrer à cette routine-là?
Il n'y a pas de temps minimum, dans le sens que une seule respiration consciente, c'est mieux que d'être dans un mode inconscient toute la journée. Donc, si on prend tout ce qu'on est capable de prendre, ultimement, tout peut se faire en pleine conscience. Tout peut, et c'est important de comprendre aussi qu'on veut pas... C'est impossible d'éliminer tous les stresseurs de notre vie. C'est impossible de demander à notre système nerveux d'être constamment en ventral, puis on va continuer d'avoir de l'activation de notre système nerveux et c'est correct. C'est juste d'en être conscient et d'accueillir ce qui est là, en fait.
Donc, l'idée, c'est pas d'arrêter de vivre et d'aller s'enfermer chacun dans notre cave, de notre côté, mais au contraire, de développer des outils pour être plus résilient face au stress en société, puis de apprendre à dire non, voir nos priorités.
Exactement. La résilience, tellement important. Cela, apprendre à être résilient et s'autoriser ce qui est là en ce moment. En ce moment. Moi, j'utilise beaucoup ce terme-là. En ce moment. Donc, si j'ai une journée où, par exemple, je me sens plus dans du stress ou je sens que c'est mon système sympathique qui est activé ou en ce moment c'est comme ça, tu sais. Puis est-ce que je suis en sécurité? Oui, je suis en sécurité là, et c'est là je vais introduire quelques respirations de cohérence cardiaque pour essayer juste de rééquilibrer les choses, parce que si on s'enferme ça peut devenir de la fuite aussi, hein.
Oui, non, ça peut devenir de la fuite, de mm-hmm. l'isolement, puis ça aussi a des conséquences.
Exactement.
OK.
Puis se trouver des petits moments, s'autoriser des moments juste pour être bien. Ça peut être la méditation, ça peut être l'exercice comme le yoga, le qigong. J'aime beaucoup le qigong, moi, ça fait circuler l'énergie, j'adore ça. Prendre des marches, s'autoriser.
S'autoriser, donner le droit.
Oui.
En terminant, Anne-Marie, par où est-ce qu'on commence? Je vois que t'as amené des livres, des ressources. Les personnes sont intéressées à en savoir plus. Qu'est-ce que tu nous suggères?
Oui. Ben, il y a un livre qui a été écrit par Ludovic Leroux, qui s'appelle Le nerf vague. Donc, c'est assez facile de le retrouver. Très bon livre, assez simple, là, qui va être bien expliqué de façon compréhensible là, ce qu'on a discuté aujourd'hui. Et quelques exercices aussi qu'on peut faire dans ce livre-là. Donc ça, c'est une des références que je suggérais. Sinon, j'aime beaucoup simuler le nerf vague pour faciliter la guérison. C'est écrit par Stanley Rosenberg, qui est un thérapeute crânio-sacré, donc il travaille vraiment beaucoup, lui, avec le corps. Et il a développé différents exercices qu'on peut faire à la maison pour simuler le nerf vague et le favoriser à s'auto-guérir, si on veut, à s'auto-équilibrer.
Dans le processus de guérison, des maladies, des problèmes de santé, ça, il est important, le nerf vague. Hein?
Oui, ben oui, il est essentiel. Mm-hmm. Il est à la base. Parce que si on a une maladie, on a un diagnostic X, Y, Z, le mental va embarquer. Le mental va embarquer, on va avoir peur. On a peur. Et là, on est dans notre système de défense. On est dans notre système de survie. Alors qu'on... Et ça, ça favorise pas une homéostasie. Donc, on n'est pas en train d'offrir, en faisant ça, on n'offre pas. Et sentez-vous pas coupable, là? Personne, parce qu'on l'a... OK, on le fait tous. Faut juste... Étape numéro un, soyez-en conscient. À partir du moment où vous en êtes conscient, vous pouvez changer les choses. Mais si on part de... Plutôt que d'être dans notre mental puis de brasser des idées par rapport à la situation, la condition qu'on vit... On favorise la stimulation ventrale du nerf vague, puis on va s'auto-équilibrer. Ben, on vient de faire un grand pas pour vers la guérison.
Un petit pas à la fois.
Un petit pas à la fois.
Un grand merci, Anne-Marie. Vraiment super intéressant. Puis, ben, merci d'avoir pris ce temps-là. Je pense que ça va aider beaucoup de monde et moi la première.
Merci beaucoup.
J'espère que vous avez apprécié cette rencontre et que ces propos vous ont fait du bien. Si c'est le cas, vous pouvez faire suivre à vos amis ou à vos proches. Et si vous avez des commentaires ou des suggestions d'invités, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Pour ne rien manquer de ce que je mets en ligne, vous pouvez vous abonner à mon blog eugeniefrancoeur.com ou encore vous inscrire sur Spotify, Apple Music ou votre plateforme préférée. Et si vous sentez que vous avez besoin d'une coach santé pour optimiser votre vitalité et votre bien-être, et croquer encore plus dans votre vie, vous pouvez me contacter au 514-913-1947 ou encore à eugenie.franqueur@gmail.com. Je vous remercie et à bientôt!